Regard,
What's that look upon your face?
Animé par Ulrike Heugeveld.
It seems you've got a lot to say, but no words come. The flow seems to be gone.
Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Regard, émission dans laquelle nous accueillons régulièrement des photojournalistes qui viennent nous raconter leur parcours. Cette semaine, c'est Nils Ackermann qui est notre invité. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci à vous pour l'invitation.
Alors, Monsieur Ackermann, vous êtes un photographe documentariste suisse basé à Genève. Vous travaillez pour la presse depuis 2007. Votre travail a été publié dans les plus grands médias internationaux tels que le New York Times, Le Monde ou encore National Geographic. Votre carrière, elle a commencé avec un premier projet sur le long terme intitulé L'Ange Blanc, un projet qui s'intéressait à la transition de l'adolescence à la vie adulte dans la ville de Slavoutitch, une ville située à 40 km de Tchernobyl et née suite à la catastrophe nucléaire de 1986. Alors, ce reportage a été suivi d'un deuxième projet, Looking for Lenin, toujours en Ukraine, que vous avez réalisé avec le journaliste Sébastien Gobert. Ce projet, il documente la décommunisation en Ukraine, notamment qui s'est effectuée notamment par le retrait des statues de Lénine à travers tout le pays. Et puis, depuis 2017, vous avez à nouveau collaboré avec Sébastien Gobert pour faire connaître la petite ville industrielle de Novorossiysk, ville qui avait été nommée New York au temps des germanique mennonite, mais que Staline avait rebaptisé en 1951. Au printemps 2021, la localité a retrouvé son nom historique. Nous reviendrons sur ce projet dans la deuxième partie de l'émission. Vous nous commenterez d'ailleurs certaines des images que vous avez pu prendre au cours de ce projet. Mais peut-être comme première question, Nils Ackermann, qu'est-ce qui vous a d'abord amené en Ukraine, le pays dans lequel vous avez vécu et réalisé vos principaux projets ?
Alors, l'Est, le monde slave, et je dirais tout particulièrement pour le regard, l'observant de l'Ouest, est quasi automatiquement photogénique. Mais c'est vrai que ce qui m'a attiré la première fois à l'Est, c'est des années durant mon enfance, mon adolescence, de fascination pour tout ce qui touche au graphisme, à l'iconographie du monde soviétique. Bon, ça commence par l'alphabet cyrillique, avec ses lettres, avec des formes un peu semblable mais un peu différente en même temps, et ça continue après avec tous les mythes qui... j'ai pas tellement grandi dedans, je suis né en 1987, donc je suis né un peu à la fin de toute cette époque de guerre froide et tout ça, mais mes parents par contre eux étaient baignés dedans, donc c'est cet univers comme ça où on me décrivait ce monde de l'Est comme défaillant, dictatorial, austère, enfin... Vous savez, ça passe des clichés dans les James Bond aux images de Tchernobyl avec cette image qui grésille comme ça. Tout ça, ça a vraiment baigné mon enfance. Et ben, un peu plus tard, j'ai rêvé d'aller voir à quoi ça ressemblait en vrai. Donc avec un de mes meilleurs amis, on s'est dit, ben, on va aller en Russie. Et puis, c'était notre premier voyage un peu lointain. Et en fait, le coût des visas, tout l'aspect bureaucratique était un peu rédhibitoire pour nous. Alors on s'est dit, bon... on oublie la Russie, pourquoi on n'irait pas plutôt en Ukraine ? Et puis, donc ça c'était en 2009, premier voyage là-bas, et coup de foudre avec le pays, parce que j'aime bien dire qu'on était allé chercher des statues de Lénine, et puis qu'en fait on est revenu avec plein d'autres découvertes. À l'époque c'était encore assez superficiel, mais plus j'y suis retourné, plus j'ai découvert un pays riche en surprises, et fort d'une population très très généreuse.
Monsieur Ackermann, si vous aviez une image de cette première rencontre avec l'Ukraine, ce serait quoi, ou une anecdote ?
Alors, le premier souvenir, le premier flash, je dirais, c'est le métro. Quand on entre dans le métro de Kiev, d'autant plus qu'à l'époque, en 2009, dans certaines stations, il y avait encore une espèce de musique assez orchestrale pendant qu'on descend dans les interminables escalators. J'étais directement immergé dans un univers qui changeait totalement du mien et qui nous fait voyager dans le temps, qui m'amenait un peu tous ces fantasmes, justement, sur une architecture, sur un rapport aux formes, un rapport à la dimension, et du coup chaque coin, chaque espace devenait une suggestion à la photographie. Donc c'est vrai que ce premier voyage m'a complètement subjugué. Les trains de nuit, les bâtiments, les statues, et puis bien sûr les gens. Mais c'est vrai que le premier contact, le premier choc que j'ai eu, c'était vraiment, je dirais, le métro. Et c'est quelque chose qui me poursuit encore. Maintenant, je n'habite plus à Kiev. Mais par contre, quand j'emmène des amis de temps en temps pour un voyage ou autre, je me sens obligé de passer par le métro et de m'arrêter par quelques stations pour leur montrer la magie de ce métro qui est bien plus surprenant et bien plus esthétique que des métros parisiens, londoniens ou autres.
Alors la magie, vous l'avez même trouvée dans la zone de Tchernobyl. Hein. Vous avez consacré ce projet L'Ange Blanc à des adolescents qui vivent dans cette région si particulière. Vous en avez sorti des images particulièrement intimistes. Racontez-nous un petit peu, Nils Ackermann, la jeunesse de ce projet et puis la façon dont vous avez pu le mener.
Ce projet était, tout comme notre arrivée en Ukraine, le projet de l'Ange Blanc était un peu un accident. J'ai vécu pendant un an au Cameroun et le Cameroun, par sa vie, me ramenait un peu faire tout ce que j'ai apprécié dans la vie en Ukraine. Et je découvrais un projet à Yevpatoria, en Crimée, de construire une ville à partir de rien, comme ils font dans les Émirats arabes. Et ça sentait le projet qui allait probablement pas être aussi abouti qu'espéré. Et je me suis dit, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Et j'ai commencé un peu à me documenter. Et puis en fait, ce projet n'a jamais vraiment démarré. Et du coup, j'ai cherché d'autres villes from scratch. Ces villes nouvelles qu'on construit à partir d'un terrain vide. Et j'ai une très bonne liste de ces villes sur Wikipédia. Et parmi elles, il y avait Slavoutych. Une ville qui est née juste après la catastrophe de Tchernobyl. Sa principale caractéristique à ce moment-là, c'est qu'elle était relativement proche de Kiev. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir ça. Les reportages sur Tchernobyl, j'en avais avalé toute mon enfance depuis la catastrophe. Et du coup, je savais assez bien à quoi ressemblait Pripyat et j'avais pas forcément envie de faire un énième reportage sur ça. Mais par contre, cette ville, construite en 1988, enfin ouverte en 1988, et qui n'a d'autre fonction que d'être, à la base, elle était faite pour les gens qui allaient encore travailler à la centrale. Puis ensuite, elle est devenue celle de ceux qui démontent maintenant la centrale de Tchernobyl. Cette ville, comme ça, sans histoire et sans avenir, c'est quelque chose qui m'intéressait particulièrement. Donc je suis allé voir. Et puis, après le deuxième ou troisième voyage, je me suis dit, bon, là, je vais travailler dessus pendant au moins 2 ans. Finalement, ça a été 4 ans. Et il en est ressorti, voilà, mon premier ouvrage qui s'appelle L'Ange Blanc. Et un travail qui a changé ma vie et qui a changé aussi mon regard sur mon rôle en tant que journaliste.
Et puis qui a aussi changé le regard de beaucoup de gens sur l'Ukraine et notamment sur cette zone. Hein. Il y a quand même de la vie au-delà de la radioactivité. Hein.
C'est vrai que quand on pense Tchernobyl, et plus on en est loin, plus il y a des fantasmes. On pense Tchernobyl, on pense à cette région, on pense forcément à quelque chose de très mortifère. Et mon propos, c'est pas vraiment un plaidoyer pour ou contre le nucléaire, c'est juste le récit de cette ville qui est le bébé vivant de cette catastrophe qui a causé quand même beaucoup de malheur. Et surtout, c'est une espèce de regard, plutôt que de se tourner vers le passé et puis de regarder avec un air un peu dédaigneux un pays où on a envie de voir que des échecs. Là, j'avais envie de me tourner vers cette jeunesse qui a reçu, sans vraiment l'avoir choisi comme tâche, d'avoir à réparer les erreurs que les parents ont laissées. Et à ce moment-là, donc, c'est un reportage qui a été fait en 2012 et 2016. On est à une étape charnière pour le pays. On est entre les deux, il y a le début de la révolution, il y a le début de la guerre, enfin l'annexion de la Crimée, la guerre dans le Donbass. Et du coup, je documentais cette vie de jeunes qui construisent leur avenir dans une ville qui n'en a pas vraiment. Mais en même temps, tout ça se passait dans un pays qui était aussi en train de redécouvrir une certaine indépendance et de se distancier d'un voisin qui était relativement fraternel. Et donc, il y avait plusieurs histoires qui s'entremêlaient. Mais c'est vrai qu'en produisant ce reportage, qui parle justement de cette jeunesse et qui parle quand même pas mal de l'espoir, j'avais peur que ça n'intéresse absolument personne, parce qu'on était à un moment, quand il est sorti, où on parlait absolument que de la guerre, que du Donbass, que de la mort. Et moi, je viens avec une histoire de vie et d'amour.
Et alors, ça a quand même été le succès au rendez-vous. Hein. Elle a beaucoup fait parler, cette exposition, ce travail.
C'était au-delà de tout ce que je pouvais jamais espérer. Il a été exposé un peu partout dans le monde. Il a reçu, je crois, une douzaine de prix. Moi, je pensais vraiment que ça sortirait quasiment jamais de mon disque dur. Et quelques amis m'ont dit, envoie-le à tel concours, envoie-le à tel, montre ça à tel éditeur. Et absolument tous mes rêves se sont réalisés en l'espace de quelques mois avec ce travail. Et je suis très content parce que ça m'a permis d'amener ce regard que je pose sur ce pays, un regard qui justement ne se contente pas des mauvaises nouvelles, mais essaye aussi de montrer, d'amener un peu de nuance et puis de dire qu'il y a des problèmes, c'est clair, mais qu'il y a aussi des gens qui essayent de les résoudre.
Alors, monsieur Ackermann, il y a aussi un autre projet que vous avez mené. Vous parliez tout à l'heure de ce travail de distanciation hein, de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Ce travail, c'est notamment, en tout cas cette phase, c'est manifesté par le déboulonnage de toutes les statues de Lénine hein, après la révolution de Maïdan qui parsemait le territoire ukrainien. Je crois que c'est le pays du monde où il y avait le plus de statues de Lénine au kilomètre carré. Racontez-nous un peu ce travail également et puis en quoi ce déboulonnage a été important pour les Ukrainiens. Est-ce que c'était aussi pour eux véritablement un moyen de marquer le fait de tourner une page historique?
Oui, alors donc depuis 2009, j'ai commencé à suivre assez assidûment la politique ukrainienne. Et fin 2013, c'était quoi? Le 21 novembre, il y a le début de cette mobilisation pour pousser les autorités à signer l'accord avec l'Union européenne pour le rapprochement économique et institutionnel. Et après que le Premier ministre ait dit qu'en fait, non, finalement, ils ne vont pas signer ça, après avoir donné des signaux plutôt positifs pendant des années, je vois une manifestation qui commence à apparaître et qui ne ressemblait pas du tout à tout ce qu'on avait vu auparavant. Alors, j'arrive 2 jours plus tard, donc le 23 novembre, et je reste jusqu'au 29, enfin jusqu'au 30, parce que le 29, c'était soit le président signait, soit il signait pas. Et cette manifestation, qui à l'époque s'appelait Euromaïdan, avait vraiment un caractère unique, parce qu'elle avait vraiment ce côté, voilà, issu de la société civile. Donc je documentais ça, pour moi, pour quelques médias. Et ben ensuite, le lendemain de la non-signature, ben il y a eu cette violente intervention des forces policières qui ont commencé à tabasser les manifestants qui étaient sur la place, et ce qui a donné lieu à un changement radical de cette manifestation qui est devenue la révolution de la dignité, qui n'était plus tellement une question de rapprochement avec l'Union européenne, mais plus une question de se débarrasser d'autorités qui abusent de leur pouvoir, qui sont corrompues et tout ça, qui aboutit, comme on l'a vu plus tard, au départ du président Yanukovych en Russie, immédiatement après à l'annexion de la Crimée et puis au conflit à l'Est. Et ces événements-là, donc moi je les suivais de plus ou moins près. D'abord les premiers jours j'étais là et puis ensuite j'avais des engagements qui faisaient que je ne pouvais pas toujours être là. Mais le soir où la statue de Lénine de Bessarabska à Kiev est tombée, j'étais là. Et c'était quelque chose qui reconnectait un peu toute mon histoire avec Kiev, parce que cette statue, elle était juste à côté de l'hôtel où je passais mes premières nuits quand j'étais arrivé la première fois dans ce pays. Et justement, elle avait cet élément d'attraction du petit touriste de l'Ouest qui est gavé justement de cette imagerie pleine de clichés, et de la voir déboulonner, d'autant plus après l'avoir vue quelques jours plus tôt entourée de policiers anti-émeute, parce que c'était vraiment un symbole relativement fort, de la voir tomber, de la voir assaillie par des manifestants avec des grosses masses. C'était quelque chose d'extrêmement fort, et qui, comme mon collègue Sébastien le dit aussi régulièrement très bien, c'était déjà un signal de la fin du régime de Yanukovych. Le fait qu'un symbole aussi précieux, d'une certaine manière, soit abandonné à la foule des manifestants, c'était déjà un signe qu'ils étaient en train de perdre du terrain. Et cette perte de terrain, elle a pris un nom après, parce qu'elle s'est répandue à travers le pays. C'est le phénomène du léninopade, donc la chute des Lénines. Et durant cette révolution de la dignité, on pouvait voir quelle ville rejoignait le camp des manifestants, en regardant la carte de où étaient tombées les Lénines à travers le pays. Et il y avait vraiment une espèce de synchronie assez forte entre la chute de la statue, le retournement de la mairie locale qui rejoignait le camp des manifestants. Et c'est vrai que plus cette carte du Léninopade se remplissait, plus on pouvait constater la perte de terrain du régime de Yanukovych, et donc la victoire en quelque sorte de la révolution. Ça, c'était vraiment l'actualité brute du moment. Et en fait, c'est quelques mois plus tard, donc quand la guerre a commencé, quand le président Yanukovych n'était déjà plus là, que je me suis reposé la question de ce qu'était devenue cette statue, parce que j'étais marqué par le fait que les manifestants tapaient avec des masses extrêmement lourdes, et ils mettaient une énergie folle à taper sur cette statue, mais il n'y avait que des petits fragments qui s'en allaient. Donc j'avais en tête l'idée qu'il devait y avoir quelque part une espèce de masse assez informe de cette quartzite rouge qui devait être stockée quelque part, probablement dans un entrepôt municipal. Imaginez que cette forme un peu ridicule, c'était Lénine. Je me disais, il y a une image incroyable à faire. Donc j'en ai parlé à Sébastien, mon collègue journaliste avec qui on faisait déjà plusieurs reportages. Et puis lui n'avait pas eu d'informations sur ce qu'était devenue cette statue. Alors on s'est dit, ben tiens, on va la chercher. Et en fait, la quête de cette statue-là nous a amené à en découvrir plein d'autres à travers tout le pays. Et la découverte de ces statues nous permet de raconter beaucoup de choses sur le rapport qu'alimentent les Ukrainiens avec ce passé. Un rapport fait de nostalgie, fait de critique, fait de questions. De tous ces aspects, en fait, qu'on a pu apprévoir, sont très universels quand il s'agit des confédérés aux États-Unis, de Napoléon Bonaparte en France. En Suisse, on a aussi eu des problèmes récemment avec toutes la vague Black Lives Matter. Il y a beaucoup de célébrités suisses, de personnages un peu historiques qui ont un lien à l'esclavage. Et on se pose maintenant la question de savoir quelle est leur place. Ben, tout ça, on avait déjà pu en avoir un avant-goût en travaillant sur cette question de Lénine en Ukraine avec Sébastien.
Il en reste
Pardon?
encore, Monsieur Ackermann, des statues de Lénine en Ukraine où elles ont toutes été mises à bas. Bah, évidemment, j'imagine qu'il en reste quand même quelques-unes en Crimée dans les régions séparatistes de Donbass, mais dans le reste de l'Ukraine.
Alors voilà, ça dépend de ce qu'on appelle l'Ukraine. Donc sur le territoire ukrainien tel que reconnu par le droit international, oui, il en reste, essentiellement justement dans les régions de Donetsk en Crimée. Là, il y en a encore beaucoup. Après, dans les territoires contrôlés par les autorités, par la loi, il n'y en a plus dans l'espace public. Il y en a, je crois, une ou deux à Tchernobyl. Mais autrement, voilà, la loi oblige à retirer, et ce n'est pas que les statues de Lénine, c'est tous les symboles qui glorifient ou qui mettent en valeur le passé communiste, doivent être retirés de l'espace public. Ça n'empêche pas que justement, il y a des. Je sais pas, quelqu'un qui a envie d'en mettre un dans son jardin a le droit. Ou quelqu'un qui a envie de garder ça chez lui, ou même comme décoration dans une espèce d'escape room ou autre. On a vu tout un tas de choses assez folles. Donc, ça, c'est tout à fait faisable. Mais dans l'espace public, en théorie, il n'y en a plus. On a vu récemment, enfin, il y a un peu plus d'un an, il y avait dans l'oblast de Odessa, il y avait eu une petite municipalité qui a voulu remettre en place son Lénine. Et des nationalistes, quelques heures plus tard, sont déjà venus le décapiter. Donc voilà, c'est quelque chose de relativement stable. Il y a plus de statues de Lénine, en tout cas à leur emplacement initial, donc sur ces piédestals centraux, dans les places. Mais on en trouve maintenant dans des souterrains, dans des collections, dans des décharges, dans tout un tas d'endroits.
Et alors, Monsieur Ackermann, vous avez continué à vous intéresser à l'Ukraine. Vous publiez tout récemment un ouvrage intitulé, alors un nom inattendu hein, pour parler de l'Ukraine, New York. C'est une petite ville qui est située près de la ligne de front dans le Donbass. Vous le signez avec Sébastien Gobert aux éditions Noir sur Blanc. On va commenter, si vous le voulez bien, quelques-unes des photos que vous présentez dans cet ouvrage. Alors, il y a deux photos qui présentent des enfants. L'une qui est, on y voit une chambre d'enfant avec énormément de lits. C'est plutôt un dortoir d'ailleurs, une image très, très bleutée. Est-ce que vous pouvez nous la raconter?
Alors, donc, le reportage s'appelle New York, Ukraine. Et ça peut paraître une blague pour l'auditeur, mais il y a bien une ville qui s'appelle New York et qui en plus se trouve être juste à côté de la ligne de front dans le Donbass. Et ça, c'est fin 2017, Sébastien qui revient de l'Est de l'Ukraine, les yeux complètement écarquillés, et qui me dit, Nils, j'ai été faire un reportage dans une ville qui veut récupérer son nom historique de New York. C'est incroyable, j'aimerais bien qu'on y aille ensemble. Et donc, on est allé voir cette ville, et puis là, ces deux photos, en fait, cette photo-là de ces enfants qui font la sieste. Eh ben, c'était durant mon premier voyage, c'était déjà le deuxième voyage de Sébastien sur place. C'était mon deuxième voyage. Et c'est vrai que c'est, pour ceux qui n'ont jamais été dans le Donbass, ben, c'est une région qui a une espèce de texture assez dure. C'est une région minière, c'est une région avec une industrie relativement lourde, une industrie assez ancienne, une région qui, par son activité économique, est un peu, je dirais, dans le passé. Elle n'incarne pas tout ce qu'on essaye de projeter sur un pays en termes de modernisation, de protection de l'environnement, etc. Et les petites villes de cette région, elles sont toujours assez économiquement assez pauvres, assez peu engageantes. Eh bien, New York n'échappe pas à ça. C'est vraiment une petite ville qui, avant même le conflit, n'était pas incroyable, qui historiquement était vraiment une très très belle, une ville très bien dotée. Mais voilà, depuis la fin de l'URSS, c'était une ville un peu sur le déclin. Et à cela s'ajoute le fait que maintenant, ben, juste à côté, il y a la guerre. Donc la ville voisine de Horlivka, et puis l'autre pas très loin de Donetsk, qui avant étaient des grands partenaires économiques, deviennent une espèce de néant qui sont de l'autre côté d'un mur quasi infranchissable, celui du conflit. Et ces villes-là, ben, elles ont tendance naturellement à se dépeupler parce qu'elles n'offrent plus aucune perspective à leur population.
Même si la vie
Et
continue, hein, c'est ce qu'on voit dans vos images quand même, hein.
ben, c'est ce qu'on a voulu raconter avec Sébastien et c'est ce qui est pour moi toujours un point cardinal dans mon travail, c'est d'essayer justement de ne pas parler que des problèmes, mais aussi de m'intéresser à comment on fait pour les résoudre et puis qui sont les acteurs de ces résolutions. Et avec New York, ben, il y avait une histoire qui nous touchait. Il y avait justement le fait que cette ville, elle restait pas assise à pleurer, à dire « Ah, oh, c'est la catastrophe, c'est la guerre, on va tous s'appauvrir et puis partir et puis cette ville va mourir. » Non, là, les habitants se sont dit « On veut continuer à rêver, on veut continuer à faire vivre cette ville, alors on va commencer par récupérer notre nom historique et puis alimenter derrière ce projet-là tout un tas de projets qui nous permettent de nous projeter dans l'avenir. Certains plus ou moins réalistes, mais… Tous avec l'idée de dire, voilà, tant qu'on s'occupe à réfléchir à ces choses, eh ben, on est encore une société, on est encore une communauté. Et pourquoi ils le faisaient? Ben, ils le faisaient en partie pour cette jeunesse. Et c'est vrai que d'avoir pu voir durant les premiers jours différents représentants de la jeunesse de cette ville, des très très jeunes, c'est comme ces enfants qui font la sieste dans l'école. C'est quelque chose de très courant en Europe de l'Est d'avoir une salle où les enfants font la sieste. Mais on les voit dans le reportage, on les voit aussi en train de répéter, par exemple, pour la journée du 8 mars, la journée officielle des droits de la femme, et qui, dans les pays slaves, est vraiment un doux mélange de machisme un peu désuet et de romantisme un peu maladroit. Mais voilà, donc il y a ces enfants qui font différentes activités, qui sont un peu les seules activités culturelles, d'ailleurs, pour les habitants de la région. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas de cinéma, il y a une boîte de nuit, mais qui est ouverte que quelques soirs par semaine. Donc de voir cette jeunesse, qui est le principal récipiendaire, je dirais, de toute l'énergie que cette population met dans des projets tels que récupérer son nom historique, mais aussi rénover certains bâtiments pour essayer de lancer des projets sociaux, créer une communauté là où les gens ont tendance un petit peu à se séparer et à se perdre de vue. Enfin, pour nous, c'était quelque chose de très touchant. Et c'est vrai que ben voilà, voir ces jeunes, qu'on a vus à différents âges, donc là on les a très jeunes, mais on peut les voir aussi un peu plus âgés en allant typiquement dans cette boîte de nuit. Et c'est un contact qui est pas le même que ce que j'ai pu avoir dans d'autres endroits du pays. D'aller dans une boîte de nuit et voir des jeunes qui dansent, ben ça me rappelait forcément le reportage que j'avais fait quelques années plus tôt à Slavoutitch. Mais l'ambiance n'était pas du tout la même à Slavoutitch. Je pouvais me promener le soir sur la place centrale et rencontrer quasi instantanément des jeunes curieux de me rencontrer, qui avaient envie de partager avec moi ce qu'ils aiment, ce qu'ils font dans leur ville. À New York, les gens sont beaucoup plus méfiants. Ces jeunes qu'on voit, et c'est quelque chose qui me touche aussi énormément maintenant que ce livre est sorti, et encore plus ces jours où les tensions regagnent en intensité à l'Est, c'est d'imaginer que ça fait déjà bientôt 8 ans que ce conflit a lieu, et d'imaginer que certains avaient autour de 10 ans quand la guerre a commencé. Ils ont maintenant ben, 18 ans, et toute cette phase où on construit son imaginaire, où on se développe, où on essaie de déterminer ce qu'on va être dans le futur, eh ben ces jeunes, eux, ils l'ont fait avec ben voilà, la porte, la guerre au bout de la rue. Et forcément, ça donne pas le même caractère que des jeunes qui grandissent avec un certain confort dans d'autres villes du pays. Donc voilà, c'est un rapport un peu plus froid, et c'est des vies qui sont marquées à tout jamais par la proximité de ce conflit, même si la ville de New York, heureusement, et sauf à de rares exceptions, est relativement épargnée par le conflit. Il y a quelques tirs qui l'atteignent de temps en temps, mais c'est une ville qui, voilà, qui est juste à côté quand même de ce conflit.
Eh bien, merci, merci Nils Ackermann d'être venu nous parler de ce travail. Hein, je recommande pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus, bah, évidemment, la lecture de votre livre. Hein, je rappelle son titre, hein, New York, Ukraine, aux éditions Noir sur Blanc qui vient de paraître et dont on mettra bien sûr les références sur la page de l'émission. On mettra également les photos que vous avez bien voulu nous commenter. Merci encore et bravo pour votre travail.
Merci infiniment. Merci beaucoup.